vos Bibles, ou si vous n'avez pas une Bible avec vous, de trouver à l'intérieur de votre bulletin une feuille où on a écrit presque tous les versets qu'on va voir ce matin. Et on va faire une petite déclaration. Pourquoi? Parce que la Bible nous enseigne que ce que nous croyons dans notre cœur et ce que nous disons avec notre bouche s'accomplit. Et c'est important. Et trop souvent, les personnes vont juste ouvrir la Bible comme n'importe quel livre. Ils vont lire la Bible comme n'importe quel livre. Ils vont écouter une prédication comme n'importe quelle émission à la télévision. Mais ce n'est pas comme ça qu'on est changé. Hein? On est transformé quand nous recevons avec humilité et avec foi la parole de Dieu. Donc, on va faire cette déclaration. Voici ma Bible. C'est la parole vivante de Dieu. Je suis ce que suis. Je possède ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Je vais maintenant recevoir la parole incorruptible de Dieu. Ma vie ne sera jamais plus pareille. Je serai pour toujours changé. Amen. Amen. Ça, c'est une bonne déclaration à faire. C'est une chose que j'aime faire personnellement parce que ça change notre façon de regarder la parole. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Je possède ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Et ça, c'est merveilleux. Donc, ce matin, on va continuer la série qu'on a commencée il y a déjà 4 semaines sur comment trouver du sens dans un monde insensé. Et comme on vient de prier pour les jeunes de notre province, on a entendu qu'ils vont ouvrir les maisons de piqûre. Les gens peuvent venir se droguer sous la surveillance du gouvernement. Ça, c'est fou, n'est-ce pas? Est-ce que combien de vous êtes d'accord que c'est fou? Je ne suis pas en train de blaster les personnes du gouvernement qui ont des bonnes intentions parce que sûrement, ils voient les problèmes, ils ne savent pas quoi faire. Mais encore une fois, voilà la solution. La solution est en Jésus-Christ. Amen. Et si on veut trouver du sens dans un monde insensé, il faut trouver notre raison d'être en Jésus-Christ. Et on a vu plusieurs choses à travers les dernières quelques semaines. Et notre texte principal est 2 Corinthiens chapitre 5, verset 15. C'est dans vos notes, ou sinon, regardez dans votre Bible. Et on va le lire ce matin pour commencer. En 2 Corinthiens chapitre 5, verset 15, dans la parole de vivant, c'est marqué, « Pourquoi est-il mort pour tous? » Ça parle de Jésus. « Pour que ceux qui ont été ressuscités à une vie nouvelle ne continuent pas à mener selon leur gré une petite vie égoïste, mais qu'ils vivent pour celui qui est mort à leur place et qui fut ressuscité pour leur salut. » Et qu'est-ce que nous avons découvert à travers les quelques semaines passées? C'est que si nous allons trouver du sens dans ce monde insensé, il faut arrêter de vivre pour nous-mêmes. Il faut commencer à vivre pour Jésus. Amen. Si on vit pour soi-même, notre vie est une petite vie égoïste. On ne fait pas grande chose. Hein? On n'a pas beaucoup, on n'a pas vraiment grand plaisir. On est toujours déçu. C'est comme Noël s'en vient. Hein? Et combien de vous vous rappelez? Quand vous étiez jeune, vous aviez toujours hâte de Noël. Hein? À chaque fois que le journal arrive avec les images, c'est comme mes enfants aujourd'hui, ils demandent toujours, est-ce que le journal est arrivé? Est-ce que la parole express est arrivée? Laisse-moi vous dire, hein? Rendu au mois de juillet ou le mois de juin, ils posent jamais la question sur le journal. Mais hein, une fois qu'on est rendu à novembre, le journal arrive, ils veulent voir parce qu'ils veulent rêver de qu'est-ce qu'ils peuvent peut-être un jour recevoir comme cadeau à Noël. Est-ce que vous savez de quoi je parle? Est-ce que mes enfants sont les seuls enfants qui font ça? Non. Mais vois-tu, c'est bien correct. Il n'y a rien de méchant là. C'est normal pour un enfant de le faire. Mais vous savez, moi, je m'en souviens quand j'avais 9 ans et j'avais tellement hâte de Noël et je voulais avoir un couple de choses particulières. Je voulais vraiment les recevoir. Et finalement, Noël arrive et je me réveille le matin et je vois les beaux cadeaux en dessous du sapin. Mais il faut attendre, tu sais, il faut attendre que maman se réveille. Hein, et on ne peut pas les désemballer tout de suite, il faut attendre. On n'aime pas ça, attendre. Et je ne sais pas pourquoi, mais les enfants se réveillent tôt hein, quand c'est Noël. Est-ce que c'est juste chez nous que ça arrive comme ça? Hein? Et maman et papa ont souvent, ils ont resté toute la nuit pour finir les choses, donc ils se sont couchés tard, et là, les enfants se réveillent tôt, et oh, attends juste un peu, hein, 5 heures du matin, c'est un peu trop tôt. Mais je m'en souviens d'avoir ouvert les cadeaux, et c'est exactement qu'est-ce que je voulais. Oh, que j'étais content! Wow, c'est exactement qu'est-ce que je m'attendais, un beau cadeau, un don que j'ai reçu. Mais, 2 ou 3 jours plus tard, je m'en souviens spécifiquement d'une journée, j'étais à peu près 3 jours après Noël, j'avais à peu près 9-10 ans, et tout d'un coup, je suis devenu comme triste, presque déprimé, parce que le jouet que j'attendais depuis des mois, je l'avais entre mes mains, et c'est comme, ça ne me donne plus le plaisir. C'est comme, ça commence à être plat, déjà. Combien de vous savez de quoi je parle? Hein? Et on sait que c'est comme ça que ça arrive avec les enfants. Oh, si seulement je pourrais avoir une telle poupée ou un tel jouet. Et là, on reçoit le jouet qu'on veut, et quelques jours plus tard, c'est comme plate. Et la réalité, c'est que ça ne change pas avec l'âge. Hein? La seule chose qui a changé, c'est le prix des jouets. Hein? C'est comme j'ai entendu, la seule différence entre les garçons et les hommes, c'est le prix de le jouer. Hein? Quand on est jeune, c'est une poupée ou c'est un jouet magnifique qu'on veut. Mais quand on est vieux, c'est peut-être une sécheuse, une laveuse, c'est une auto, c'est une femme, un mari. C'est quelque chose, hein? C'est le permis de conduire pour ceux qui ont 15, 16 ans. C'est, oh, si seulement je pourrais avoir mon permis de conduire, là, je vais être heureux. Là, je vais être content dans la vie. Ça ne marche pas comme ça. On reçoit qu'est-ce qu'on veut, et puis on est déçu quand même. Est-ce que c'est vrai? Pourquoi? Parce qu'on est centré sur soi-même. Et c'est une petite vie égoïste. Et c'est pas une vie qui est heureuse. Ce n'est pas une vie comblée, c'est une vie égoïste et décevante. On est souvent et continuellement déçu quand on vit pour soi-même. Mais quand on vit pour Jésus, on n'est jamais déçu. Il y a quelque chose, hein, quand on prend notre temps. La semaine passée, on parlait de comment gérer notre temps pour la gloire de Dieu, comment vivre pour Dieu avec notre temps. On n'est jamais déçu après avoir pris du temps pour prier. On n'est jamais déçu après avoir pris le temps pour témoigner ou partager avec quelqu'un d'autre. On n'est jamais déçu. Est-ce que j'ai raison? On est souvent déçu quand on reste trop longtemps dans le lit ou si ça n'arrive jamais. Maintenant, hein, avec 5 enfants, laisse-moi vous dire, c'est peut-être le problème, c'est le contraire. C'est pas assez de temps dans le lit. Mais vois-tu, peu importe le problème, si on passe trop de temps devant la télévision, si on passe trop de temps faisant les choses qui sont pas forcément méchant, mais les choses qui ne sont pas forcément selon la volonté de Dieu, on est souvent déçu. Mais quand on fait la volonté de Dieu, on n'est jamais déçu. Donc, on a parlé de comment gérer notre temps la semaine passée, mais ce matin, on va parler de deuxième T. On a dit que dans la vie, tout ce que nous avons et tout ce que nous sommes appartiennent à Jésus, notre temps, nos talents, nos trésors et notre temple, notre corps physique appartiennent à Dieu. Et si on veut être vraiment heureux, comblé dans la vie, il faut vivre pour Jésus avec notre temps, nos talents, nos trésors et notre temple à 100%. Ça, c'est la recette pour une vie victorieuse, une vie comblée. C'est ça qu'on veut. Mais ce matin, on va parler de ce deuxième T, les talents. Parce que sachez que vous avez les talents à l'intérieur de vous. Dieu a placé en vous les choses, et si vous utilisez ces choses pour Dieu, et vous vivez pour Dieu avec vos talents, vous serez content, vous ne serez pas déçu. Amen? Donc, on va lire dans notre texte 1 Pierre, chapitre 4. Allons-y à 1 Pierre, chapitre 4, dans nos Bibles, et on va commencer à lire un verset bien, bien important. Parce que c'est pas de fun d'être déçu, hein? C'est pas de fun d'être déprimé, hein, 3 jours après Noël. Et c'est la même chose dans n'importe quel domaine de la vie. C'est pas juste Noël. Mais si vous êtes déprimé, Il y a souvent des problèmes physiques et des personnes qui ont des problèmes physiques qu'il faut régler, il faut recevoir la guérison. Mais il y a souvent des personnes qui ne sont pas vraiment, c'est pas un problème médical, c'est vraiment émotionnel. Ils sont souvent comme, ils n'ont pas, plus le goût de vivre comme ils avaient, la joie de vivre est partie de leur vie. Et laisse-moi vous dire, souvent c'est parce qu'ils n'ont pas utilisé leur talent pour la gloire de Dieu. Ils ont utilisé tout ce qu'ils ont pour eux-mêmes dans une petite vie égoïste. Et on va voir comment changer cela aujourd'hui. 1 Pierre chapitre 4, c'est un verset très, très important. Regardons, prenons le temps de regarder. En fait, j'ai à cœur de commencer un peu plus tôt. Donc, à partir de verset 7, ce n'est pas dans vos notes, par exemple. C'est seulement à partir de verset 10 que c'est dans vos notes. Mais on va reculer quelques versets. Verset 7, 1 Pierre 4, 7. La fin de toute chose est proche. C'est ça que la Bible dit. Il y a presque 2000 ans, Dieu a dit que la fin de toute chose est proche. Donc, à combien plus fort raison devrions-nous croire que la fin de toute chose est proche aujourd'hui, en l'an 2002? Amen. La fin de toute chose est proche. Donc, il va nous montrer comment vivre, étant donné que la fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. On devrait passer du temps dans la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité ou en ardent amour. Amen. Car l'amour couvre une multitude de péchés. Donc, Dieu dit que la fin de toute chose est proche, donc il faut prier, il faut marcher dans l'amour. Et il y a une troisième chose qu'il va dire qu'il faut faire aussi. Mais il dit exercer l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. Et verset 10, comme de bons dispensateurs. Tout le monde dit dispensateur. Quelques traductions disent comme des bons gérants, des bons administrateurs ou les bons économes. On a parlé des économes il y a quelques semaines, n'est-ce pas? Un économe, c'est quelqu'un qui est appelé à gérer ou administrer les biens qui appartiennent à quelqu'un d'autre. Amen? Ces choses ne nous appartiennent pas, ces choses appartiennent à Dieu. Dieu nous a confié ces choses. Qu'est-ce que Dieu nous a confié? Il s'est marqué en verset 10, comme des dispensateurs ou les économes de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le communique selon la force que Dieu communique, pardon, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Et moi, j'aime notre traduction de ce même verset qui dit que chacun de vous a reçu de Dieu un don particulier, qu'il le mette au service des autres comme un bon gérant. Tout le monde dit un bon gérant. De la grâce infiniment variée de Dieu, que celui qui parle transmette les paroles de Dieu. Que celui qui sert accomplisse sa tâche avec la force que Dieu donne. Agissez en toutes ces choses de manière à ce que la gloire revienne à Dieu par Jésus-Christ, à qui appartient la gloire et la puissance pour l'éternité. Donc, il y a trois choses qui sont dans vos notes que je veux que vous souligniez, que Dieu a fait et que Dieu dit concernant les talents et les dons qu'il vous a confiés. La première chose qui est dans vos notes, c'est que Dieu a donné à chacun de nous un don pour lui servir. Hein? Comme on aime recevoir les cadeaux à Noël, et on peut ouvrir les cadeaux sans servir, mais après on est déçu parce que ça perd son allure. C'est pas comme ça avec les dons que Dieu donne. Quand Dieu donne un don, son don est bon, et son don est bon, hein? Ça rime même. Sa don est bon, et sa don dure. Son don est éternel. Son don ne va pas perdre son éclat. Son don va continuer à avoir d'efficacité. Si on s'en sert comme faux. Mais il faut que vous sachiez que vous avez un don. C'est impossible que vous n'avez pas un don si vous êtes enfant de Dieu. Laisse-moi vous dire, il n'y a pas une personne dans cette pièce qui n'a pas de cerveau. Même si des fois, on a des doutes. Ah non. Non. Je dis ça juste pour vous réveiller. Hein? Ce n'est pas gentil. Mais est-ce que tout le monde est d'accord que ça n'existe pas un être humain dans cette pièce ce matin, ça n'existe pas une personne ici qui n'a pas de cerveau? Ici, non. Ailleurs, c'est notre histoire peut-être. C'est impossible parce qu'une personne ne peut pas vivre sans un cerveau. Vous êtes d'accord? C'est la même chose. Si vous êtes chrétien, si vous êtes enfant de Dieu, vous avez reçu un don de Dieu. Dieu a placé en chacun de ses enfants un don, une grâce. Le mot grâce veut dire don. Donc, c'est impossible que vous soyez chrétien, que vous soyez enfant de Dieu, sans avoir un don. Ce don ne vous appartient pas. Ce don appartient à Dieu et vous êtes le gérant, l'administrateur ou l'économe de Dieu que Dieu vous a confié. Amen? C'est un bien qui lui appartient. Il vous a confié ce don. Pourquoi? Parce qu'il sait que vous êtes capable. On a lu dans l'histoire de monsieur qui a donné des talents différents. Il a donné à chacun selon sa capacité. Amen? C'est-à-dire que si vous êtes là, vous avez un don, et Dieu sait que vous êtes capable d'utiliser ce don pour vivre pour lui. Amen? Tout le monde dit, j'ai un don. Et tout le monde dit, je suis capable. C'est comme quand Andrew est allé à la maternelle, son professeur à la maternelle a dit, pas capable, viens pas à l'école. Parce qu'elle n'aimait pas ça entendre les enfants dire, oh, je suis pas capable, je peux pas le faire, je suis pas capable. Non, 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 pas capable, viens pas à l'école. Mais souvent, il est pas capable, hein, il est trop souvent à l'église. Mais je ne suis pas capable de faire grand-chose, hein? Pas capable de faire grand-chose pour le Seigneur. Je n'ai pas vraiment des talents, des dons comme toi. Des talents, j'ai dit, hein? Franchement. Mon don n'est pas le français, hein? Quand même, je m'en viens. Pas pire. Mais je suis capable de parler en français. Je parle bien en français en plus, hein? Pour un garde des États-Unis, je parle bien. Mais laisse-moi vous dire une chose. Pas capable, viens pas à l'église non plus. On est capable. Tout le monde dit, je suis capable. Parce que vous avez un don en vous. Amen. Donc ça, c'est la première chose que je veux que vous voyez. Vous êtes capable parce que vous avez un don. Deuxième chose qui est dans vos notes, c'est que nous avons une onction pour notre fonction. Vous êtes un membre en particulier du corps de Christ. Hein? Ça se peut que vous êtes une main ou une jambe ou un œil, une oreille. Mais si vous êtes en Christ, vous avez une place, un rôle à jouer, une fonction, mais pour votre fonction, vous avez une onction. Vous avez peut-être posé la question, c'est quoi une onction? Une onction, c'est une manifestation de l'Esprit de Dieu. Amen? Une manifestation de l'Esprit de Dieu pour une tâche spécifique. On sait en Actes chapitre 10, verset 38, nous savons comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Jésus est venu sur la terre comme un être humain, un homme comme vous et moi. Vous êtes d'accord? La différence est qu'il était sans péché. Son cœur était pur, il était parfait. Il n'a jamais péché, mais quand même, il a laissé sa gloire au ciel. Il a laissé ses puissances et ses pouvoirs surnaturels au ciel. Il a opéré sur la terre comme un homme. C'est pourquoi il n'a jamais fait un miracle avant d'être baptisé du Saint-Esprit. Et quand il a été baptisé du Saint-Esprit, quand il a été baptisé dans l'eau par Jean le Baptiste, le Saint-Esprit est descendu sur lui et il a été revêtu de la puissance d'en haut. Il a reçu une onction. Tout le monde dit l'onction. C'est comme dans l'Ancien Testament, ils ont versé de l'huile sur la tête des rois, parce que l'huile était un symbole du Saint-Esprit, pour signifier que maintenant, par exemple, Saül, il est roi d'Israël, il est oint, et l'huile qui va descendre sur lui va représenter la présence du Saint-Esprit qui lui rend capable de faire la job du roi. Amen? Donc, si vous êtes en Jésus-Christ, vous êtes doué. Tout le monde dit, je suis doué. Et vous avez une onction particulière qui est disponible pour vous. Je n'ai pas dit que vous marchez dans cette onction, mais il y a une onction qui est disponible pour votre fonction. Et quand cette onction, cette présence, cette manifestation de la présence de Dieu est là, ça vous rend capable de faire les choses surnaturellement. Amen? On ne parle pas juste des talents naturels. Il y a deux choses ici. Vous avez les talents naturels. Parce qu'avant que vous soyez tissé dans le ventre de votre mère, Dieu vous a formé, il a mis en vous quelques talents. Quelques-uns de vous, vous êtes doués pour la musique. Il y a d'autres qui sont doués pour dessiner comme artiste. Moi, ne demande pas à moi de dessiner quelque chose, je ne suis pas bon. Si tu veux un bon dessin, demande à Donald, lui il est bon. Hein? Il y a d'autres personnes ici qui sont bons pour les choses de même. Demande pas à moi de jouer la guitare. Mathieu, ça vaut mieux d'avoir Pasteur Mathieu à la guitare que moi. Hein? Je vous assure. Je vous assure. Si vous ne le croyez pas, je vais pas essayer. Mais vous êtes doué et il y a une onction surnaturelle qui est disponible pour chaque personne. En fait, en 2 Corinthiens 3, 5, c'est marqué, ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Tout le monde dit, ma capacité vient de Dieu. N'est-ce pas encourageant? Parce que des fois, on ne se sent pas capable. Mais on est capable parce que lui, il est en nous et il nous a doués. Alléluia. Il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Donc Dieu a donné à chacun de nous un don pour lui servir. Nous avons une onction pour notre fonction. Si vous êtes doué dans un domaine particulier, tu as une présence, une aide surnaturelle qui est disponible pour t'aider à le faire. Et la troisième chose dans nos notes, c'est que c'est à nous de gérer ce don avec fidélité. Je suis doué, j'ai une onction qui est disponible, mais c'est à moi d'être un bon administrateur, d'être un bon gérant et de gérer ce don, ce talent que Dieu m'a confié. Amen. Moi, je suis convaincu qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont reçu les dons et les capacités de Dieu, mais parce qu'ils ont eu peur, ils ont caché leurs dons, ils ont caché leur talent. Et au lieu d'investir leur talent et leurs dons dans le royaume de Dieu, ils ont dit, « Oh, je ne peux pas, je ne suis pas capable. » Ils se sont retirés, ils ont caché les dons, ils ont caché les talents que Dieu a confiés et ils vont tout perdre. Mais Dieu est un Dieu d'amour. Dieu nous aime. Et qu'est-ce que Dieu veut? C'est qu'on puisse utiliser ses dons et qu'on puisse, avec amour et sans avoir peur, sans avoir crainte, même si on va faire des erreurs, c'est comme un enfant qui commence à marcher. Vous savez, les enfants qui commencent à marcher vont des fois tomber. Vous êtes d'accord? Mais c'est pas grave. On peut pas dire, oh, chérie, n'essaie pas de marcher parce que tu vas peut-être tomber, tu vas avoir mal à tes genoux. Non, 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 on dit, lève-toi et prends quelques pas. Si tu tombes, c'est pas grave, je vais te redresser, continue, continue. Et c'est la même chose avec nos talents et nos dons. Il y a beaucoup de vous, vous avez des choses à l'intérieur de vous dont nous avons besoin. Amen? Jésus a besoin, c'est son don à lui. En fait, on a dit que vous avez une onction pour une fonction. Jésus-Christ avait l'Esprit de Dieu sans mesure. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu est descendu sur Jésus-Christ de Nazareth. Il était capable, dans le fond, de tout faire. Il était un pasteur, il était aussi un prophète, il était aussi un évangéliste, il était aussi un apôtre, il était aussi un docteur ou un enseignant de la parole de Dieu. Il était capable de tout faire. Mais ça n'existe pas une personne dans le corps de Christ qui peut tout faire. Vous êtes d'accord? Nous avons reçu une mesure de son onction, mais c'est exactement la même onction. Le même esprit qui était sur Jésus-Christ de Nazareth quand il marchait sur la terre et quand il faisait les miracles, exactement le même esprit nous est disponible. N'est-ce pas merveilleux? Ce n'est pas une notion similaire. Jésus est le grand berger, mais moi j'ai reçu une portion de cette onction du pasteur. Mais c'est la même onction. Moi je peux avoir autant d'efficacité dans mon ministère du pasteur si je suis vraiment branché à lui. La même onction qui était sur Jésus pour être pasteur est sur moi et vous pouvez en profiter. Amen. Et la même chose pour vous. Il y a une mesure de l'onction du Saint-Esprit qui vous est disponible. Et si vous savez comment saisir et développer cela, vous allez pouvoir avoir autant d'efficacité dans vos ministères que le Seigneur Jésus-Christ. Dieu ne fait pas de favoritisme. Moi, les pasteurs, les évangélistes ne sont pas au-dessus d'autres personnes dans le corps de Christ. Nous sommes tous égaux à ses yeux. On a des fonctions différentes. C'est comme dans un mariage. Le mari est le chef de la femme, selon la parole de Dieu. Mais est-ce que cela veut dire que le mari est plus important que la femme? Jamais.
En fait, la Bible dit que le mari est appelé à donner sa vie et être prêt à mourir pour sa femme. Il va, c'est pas un dictateur, c'est un qui va même mourir pour sa femme. Amen? Donc, c'est la même chose. Donc, vous êtes doué pour le succès. Vous avez reçu un don, vous avez une onction pour votre fonction, mais c'est à vous de gérer ce don avec fidélité. Le verset qui me frappe, c'est 1 Timothée 1:12, qui dit « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur », et c'est l'apôtre Paul qui dit cela, « de ceux qui m'a jugé fidèle », tout le monde dit « fidèle », en m'établissant, tu peux souligner le mot « établissant » dans le ministère. Si vous êtes enfant de Dieu, vous êtes appelé à remplir un ministère dans le corps de Christ. Je n'ai pas dit prêcher, mais peut-être votre ministère, c'est un ministère d'aide. Peut-être votre ministère, c'est de travailler avec les enfants dans la pouponnière. Peut-être votre ministère, c'est de laver les planchers. Peut-être votre ministère, c'est de donner du conseil aux autres. Peut-être votre ministère, c'est de donner un verre d'eau à ceux qui ont besoin de l'eau. Mais peu importe votre ministère est important. Et votre ministère est essentiel. Vous êtes d'accord? Vous avez un ministère. Et la Bible dit que, comme Paul, l'apôtre Paul était appelé à être apôtre avant qu'il était formé dans le ventre de sa mère. Laisse-moi vous dire, quand il est né et quand il était un jeune homme, il ne vivait pas comme apôtre. En fait, il détestait l'Église de Jésus-Christ. Il persécutait l'Église. Et il faisait les outrages. Il jetait les personnes en prison. Il a même tué les chrétiens. Tout en étant appelé à être apôtre. Il avait un appel d'apôtre. Il avait quelque chose que Dieu a réservé pour lui, un ministère pour lui. Mais il n'était pas établi dans son ministère d'apôtre avant d'avoir prouvé qu'il était fidèle. Amen. Parce que même après qu'il a reçu le Seigneur Jésus, il a commencé à prêcher et enseigner, mais il n'était pas dans un ministère d'apôtre. Il a dû passer du temps dans l'église d'Antioche. Il a enseigné, il était fidèle à utiliser qu'est-ce que Dieu lui a confié. Et c'était après un an à peu près, à Antioche, que le Seigneur a dit, « Maintenant, mets à part pour moi Barnabas et Saul pour le ministère auquel je les ai appelés. » Et là, il a commencé comme apôtre. C'est la même chose pour vous. Vous avez un don. Vous avez quelque chose à l'intérieur de vous. Mais si vous n'êtes pas fidèle avec les talents et les dons que Dieu vous a donnés, vous ne serez peut-être jamais établi dans le ministère que le Seigneur a pour vous. Amen? Donc, bonne nouvelle, vous pouvez être fidèle. Parce que Dieu vous a donné son esprit. Comme Alice a dit ce matin, ce n'est pas par nos forces, mais c'est par son esprit. Amen? Et la fidélité, c'est un fruit de l'esprit. Amen. Donc, tu peux dire, merci Seigneur, j'ai des dons à l'intérieur de moi, j'ai une onction pour ma fonction, et tu vas m'aider à être fidèle avec ce don, et là, tu vas m'établir dans le ministère que tu as réservé pour moi. Amen. On va continuer. Et je vais juste vous donner, avant de terminer aujourd'hui, 3 choses pratiques que nous avons besoin de faire afin de bien gérer nos talents pour le succès. Première chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut découvrir, comment on dit découvrir, développer et déployer votre don. Si vous ne savez pas c'est quoi votre don, vous n'êtes pas en mesure de l'utiliser, vous êtes d'accord? Il faut savoir ce que vous avez à l'intérieur de vous afin de développer et de déployer le don et afin d'être fidèle avec ce don. Comment est-ce que vous allez découvrir votre don? D'abord, tu peux prier. Tu peux demander au Seigneur, « Seigneur, montre-moi c'est quoi mon don. » Et deuxièmement, tu peux juste commencer à agir par la foi et mettre votre main à ce que vous trouvez à faire. Et au fur et à mesure, laisse-moi vous dire, le Seigneur va vous diriger. Si vous aimez Dieu de tout votre cœur et vous aimez votre prochain de tout votre cœur, vous allez commencer à servir ces gens et vos dons vont se manifester. Tout de suite, découvrez votre don. Pour ceux qui ont suivi le cours « Découvrir la vie comme son serviteur », vous avez déjà entendu cette histoire, mais je vais le dire quand même parce que ça vaut la peine. Juste pour expliquer, parce que dans la parole de Dieu, et regardons Romains chapitre 12. Romains chapitre 12 à partir de verset 6. Tout le monde dit « J'ai un don ». En Romains chapitre 12. Il y a plusieurs genres de dons qui sont mentionnés dans le Nouveau Testament. Les dons du ministère, les dons de l'esprit, et qu'est-ce qu'on appelle aussi les dons de motivation. Et je crois que chacun de vous, vous avez un de ces dons de motivation à l'intérieur de vous. En verset 6 de Romains 12, c'est marqué, « Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie, tout le monde dit prophétie, l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère, tout le monde dit ministère, s'attache à son ministère, que celui qui enseigne, tout le monde dit enseigne, s'attache à son enseignement, que celui qui exhorte à l'exhortation, dit exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, on va dire donner, alléluia, et que celui qui donne le fasse avec libéralité, là j'ai perdu ma place, que celui qui préside, on dit préside, hein, le fasse avec zèle, et que celui qui pratique la miséricorde, on dit miséricorde, le fasse avec joie. Donc on voit sept dons de motivation ici. Il y a quelques-uns qui sont doués pour le don de motivation de la prophétie. Capable de voir les choses noires et blanc, il n'y a pas de gris, c'est la vérité. Ils transmettent les messages de Dieu, c'est noir et blanc. Il y a d'autres personnes qui sont capables d'enseigner et d'expliquer les choses de Dieu, expliquer les doctrines, expliquer comment et pourquoi une chose fonctionne. Il y a d'autres personnes qui sont douées pour exhorter, pour encourager ceux qui sont découragés, donner un plan d'action pour ceux qui veulent réussir. Amen. Il y a d'autres personnes qui ont la miséricorde, la compassion, d'autres personnes qui sont douées pour donner. Tout le monde peut faire toutes ces choses à l'occasion, mais vous avez un don d'habitude, au moins un don, des fois deux de ces dons, qui vont primer dans votre vie. Et la meilleure façon que je peux expliquer ça, c'est comme, par exemple, si je viens ici et j'ai soif. Donc, prendre quelque chose à boire. Et une fois que j'ai fini, là, je vais mettre le verre ici sur le tapis. Mais parce que je suis tellement enthousiaste et j'aime prêcher la parole de Dieu, j'oublie que j'ai laissé le verre là et je ne vais pas le faire. Mais avec mon pied, je fais tomber la vin, ça casse en mille morceaux, il y a de l'eau partout. Tout de suite, on va voir les dons que vous avez se manifester. Hein? Celui qui a le don de la prophétie va me regarder et va regarder les autres en disant, il n'aurait jamais dû mettre la vin sur le tapis. Il n'aurait jamais dû le faire. Et il va être pas mal catégorique là-dessus. Hein? Celui, par exemple, qui a le ministère d'aide ou de service, qui aime servir, ça c'est vraiment son don, tout de suite, sans que personne lui pose la question, va aller chercher un balai pour ramasser les morceaux et une serviette pour ramasser les dégâts. Tout de suite, on n'a pas besoin de lui demander, il va le faire. Hein? Celui qui a le don de l'exhortation, il va dire, c'est correct, pasteur, ça arrive à tout le monde, je continue à prêcher. Hein? Ah oui. Mais merci. Celui qui a le don d'enseigner, hein, il va dire, tu sais pourquoi c'est arrivé, pasteur? C'est parce que tu as mis la verre sur le tapis. Qu'est-ce que tu aurais dû faire? Tu aurais dû prendre le temps de remettre la verre à sa place. Donc, il va expliquer comment faire pour éviter le problème dans le futur. Celui qui a le don d'enseigner. Hein? Celui qui a le don de donner, tout de suite, va penser, ah, tu sais qu'est-ce que je vais faire? Après l'assemblée, je vais aller chez Walmart, je vais acheter un autre vin. Je vais ramener à l'église. Hein? Et celui qui a le don de gouverner, hein, il va tout de suite dire, Pierre, peux-tu prendre le balai? Danny, va chercher les serviettes. Il va commencer tout de suite à organiser une équipe pour ramasser les choses. Et celui qui a le don de la compassion va être dans sa chaise presque en larmes. Hein, parce que, oh, cette personne va ressentir la chagrin du pasteur. C'est comme, oh, vraiment, oh, j'ai vraiment de la compassion pour lui. Oh, je déteste voir ça. Hein, la personne qui est vraiment émue parce que je viens de faire un dégât. Les dons différents. Est-ce que vous voyez là-dedans? Hein? Mais vous avez un don que vous avez besoin de découvrir et de développer. Amen. Et c'est important. Vous pouvez développer et puis ensuite déployer ce don. Et c'est très, très, très important. Amen. Donc, il faut découvrir votre don. Il y a aussi les talents que vous avez. Comme j'ai dit, si vous êtes doué dans la musique,
Hein? Il faut utiliser votre musique pour le Seigneur. Et ça, c'est la deuxième chose. Numéro deux, utilisez votre don pour servir les autres. Si vous ne voulez pas être déçu après avoir désemballé votre cadeau, hein, après avoir pris le temps d'ouvrir le don que Dieu vous a confié, vous dites, « Wow, ça c'est mon don! » Là, si vous ne voulez pas être déçu, il faut s'en servir et il faut mettre ce don au service des autres. Ce don n'est pas donné à vous pour vous-même. Ce don est donné à vous pour servir. Et si vous ne l'utilisez pas, vous allez le perdre. Ça me fait penser à un musicien fameux qui était vraiment renommé dans les années 1500, quelque chose, si je ne me trompe pas. Mais lui, il était vraiment bon sur le violon. Donc, il a pris une décision parce qu'en s'approchant de la mort, il a dit, « Bon, je vais donner mon violon à un musée dans ma ville qui était Genoa, en Italie. » Mais sur une condition, personne n'a le droit de toucher ce violon. Personne n'a le droit de le toucher, jamais, jamais, jamais. Mais moi, je ne suis pas scientifique, mais qu'est-ce que j'ai entendu, c'est que le bois, si on ne touche jamais, jamais au bois, si on le touche assez régulièrement, ça va se garder, se conserver plus longtemps. Je ne sais pas si c'est l'huile qui est dans les mains ou quelque chose qui fait ça. Mais si on ne touche jamais en bois, ça va commencer à se décomposer rapidement. Et c'est ça qui s'est passé, hein? Un violon qui était là dans le musée, que personne n'a le droit de toucher, jamais, jamais, ça a commencé à tomber en morceaux, dans le fond. Hein? Après quelques années, bien sûr. Mais c'est la même chose dans votre corps. Vous êtes doué. Vous avez un don à l'intérieur de vous. Mais si vous ne touchez pas à votre don va commencer à disparaître. Pas disparaître dans le sens que ce n'est pas là, mais vous allez perdre l'efficacité que vous aurez pu avoir. Amen? Donc, il faut découvrir votre don. Et puis, dès que vous découvrez ce que c'est, il faut le mettre au service des autres. Et il y a des versets que je vous encourage à lire concernant le fait que Dieu nous a appelés à servir les autres. Que celui qui veut être le premier, qui soit le serviteur de tous. Amen? Il y a trop de personnes qui ont les dons et qui vont dire, « Regarde-moi, je suis doué, donc sers-moi, sers-moi. » Non, 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 non. Je suis doué, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Il y a une grande différence, pas? Les dictateurs vont dire, « Je suis doué avec le pouvoir et le contrôle, donc sers-moi. » Non. Mais les vrais leaders, les vrais dirigeants qui dirigent selon le cœur de Dieu vont dire, « Je suis doué de Dieu, j'ai reçu une grâce, mais ce n'est pas mon don dans le fond. » Je suis seulement l'administrateur, l'économe, le gérant de qu'est-ce que Dieu m'a confié. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Comment puis-je mettre ce don au service des autres? Et la troisième chose, hein, qu'il faut faire pour gérer vos talents pour le succès, c'est d'utiliser votre don pour la gloire de Dieu. Utilisez votre don pour la gloire de Dieu. On va lire le verset dans la parole vivante, 1 Pierre 4, 11 dit, « Dans tous les cas, agissez de manière à ce que la gloire revienne à Dieu par Jésus-Christ, car à lui sont dues la gloire et la puissance au siècle des siècles, qu'il en soit ainsi. » Amen. Si vous avez reçu un don, et vous avez un don, et si vous mettez ce don au service des autres, il faut toujours mettre ce don au service des autres dans le but de rendre gloire à Dieu. Si nous cherchons notre propre gloire, nous allons tout perdre encore. Amen. Il y a trop de personnes qui veulent être vues des hommes. Ils veulent chanter la musique, mais parce qu'ils veulent que tout le monde voit combien je suis doué pour jouer de la musique. Hein? Ils veulent même des fois prêcher parce que je veux que tout le monde voit jusqu'à quel point je suis doué pour prêcher. Ils veulent imposer les mains sur les malades parce qu'ils veulent que tout le monde voit combien je suis doué, hein, pour faire un ministère envers les malades. Mais qu'est-ce qu'on voit dans les plus grands hommes de Dieu, chez les plus grands hommes de Dieu de notre siècle même? On pense aux personnes comme Billy Graham. Combien de vous êtes d'accord que c'est un homme de Dieu? S'il y a une chose que les gens disent à propos de Billy Graham, c'est un homme extrêmement humble. Même je connais, vous avez rencontré Pasteur John et Laura Madden de la France à Nice. Ils faisaient un baptême d'eau à Nice et Billy Graham était à Nice à l'époque. Donc, il est venu juste pour regarder. Il a dit, je ne veux rien dire, je ne veux pas dire un mot à qui que ce soit, mais moi, j'aime tellement voir les gens baptisés dans le Seigneur. Son cœur, c'est sa passion. Je veux juste... Donc, il s'est éloigné et assis sur une petite côte, il regardait de loin, il regardait les personnes donner leur vie à Jésus et faire une déclaration publique de leur engagement envers le Seigneur. Ça, c'est l'humilité, n'est-ce pas? Ça, c'est un gars qui a prêché à des multitudes et des multitudes. Même chose, hein, des personnes comme Kenneth Hagin, c'est un homme que tout le monde, tous ceux qui le connaissent savent, c'est un homme extrêmement humble. Il y a des centaines et des centaines de livres qu'il a écrits. Il y a des missionnaires et des personnes qui ont gradué de son école biblique sur chaque continent et dans des centaines de pays partout dans le monde. Et lui, il ne s'en rend même pas compte de la magnitude de son ministère. Souvent, les personnes vont dire, est-ce que tu savais que tu as tant de livres publiés, tant de missionnaires que tu as aidé à former? Ils disent comme, gloire à Dieu. Tout ce que je voulais faire, c'est obéir à Dieu. Vois-tu, il ne cherche pas sa gloire. Et moi, ça, c'est ce que je veux pour ma vie. Pourquoi? La Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux hommes. Grâce égale quoi? Don. On parle des dons. On parle de comment utiliser et gérer nos dons pour le succès. La meilleure chose qu'on peut faire, c'est avec humilité du cœur. Dire merci Seigneur, c'est ton don. Je ne suis que le gérant, l'économe. C'est pas à moi, c'est à toi. C'est pas pour me servir, mais c'est pour servir les autres que tu m'as donné ce don. Et maintenant, je vais servir les autres avec ce don, avec humilité. Et Seigneur, si quelqu'un dit que c'est bon, que c'est merveilleux, que toute la gloire revienne à toi. Amen. Et je sais que c'est comme ça que ça marche. Parce que moi, j'aime prêcher, par exemple. Mais laisse-moi vous dire une chose. Naturellement, juste naturellement, j'étais jamais la personne qui aimait parler devant le public. Moi, j'étais la personne, quand j'avais 11 ans, je m'en souviens, j'avais un rapport à donner devant ma classe. Et j'étais tellement nerveux, je voulais même pas lever les yeux. Et j'étais là, et mon papier shakait de même. Pour vrai, pour vrai. Et ça shakait. Mais quand j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit, ça a changé aussi. Amen. Parce que Dieu, il nous rend capables de faire ce qu'il veut qu'on fasse. C'est sa capacité qui marche en nous. Donc, si vous faites quelque chose de bon, et si moi je fais quelque chose de bon, que toute la gloire revienne à Dieu. Amen. Alléluia. On va se lever debout, on va prier ce matin. On va gérer notre temps et nos talents pour la gloire de Dieu. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons lui appartient. Il y a des choses que vous avez à l'intérieur de vous, et Jésus a besoin de vous. Et nous, en tant qu'Église, nous avons besoin de ces dons. L'Église ne sera jamais capable d'aller de l'avant, à moins que vous mettez ces dons au service du corps de Christ. Donc, avec tous les yeux fermés. Alléluia. Père Céleste, au nom de Jésus, merci que, avec fidélité, nous allons prendre une décision de gérer les dons qu'on a reçus. On va être fidèle dans les petites choses, Seigneur. Et en étant fidèle dans les petites choses, tu vas nous confier des plus grands. Seigneur, je sais qu'il y a des personnes ici qu'ils ont douté. Ils avaient des grands doutes même concernant leurs dons, leurs appels, leur ministère. Mais avant toute autre chose, Seigneur, que tu donnes un esprit de sagesse et révélation à chaque personne ici présente, qu'ils sachent qu'ils sont créés par toi, créés pour toi, et qu'ils ont un don, Seigneur, que tu as confié que ce don est destiné à être mis au service des autres pour ta gloire. Pour que quand les gens voient leur vie en action, ils vont dire, waouh, Dieu est vivant, Jésus est vivant. Ce n'est pas les hommes qui vont tirer la gloire, mais c'est toi, Seigneur. Et avec tous les yeux fermés, j'aimerais juste donner l'occasion ici ce matin. On va prier tous ensemble. Mais si vous êtes ici ce matin, vous avez des doutes dans votre cœur. Vous ne savez même pas si vous êtes enfant de Dieu. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et si vous êtes ici, vous n'avez pas encore reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur de votre vie, je vous invite ce matin de prendre cette décision, parce que vous ne serez jamais en mesure de découvrir votre don et vos talents, à moins d'être un Jésus-Christ. avec tous les yeux fermés, est-ce qu'il y a quelqu'un qui dirait, « Pasteur, j'aimerais que tu pries pour moi. Je crois en Jésus. Je crois qu'il est mort pour moi. Je crois qu'il est ressuscité. Mais je veux savoir sans aucune doute que je suis son enfant et que mes péchés sont pardonnés et que j'ai reçu sa vie. » Est-ce qu'il y a quelqu'un avec la main levée dans l'air qui dirait, « Oui, prie pour moi. » Il y a une personne. Alléluia. Je pense que cette personne, c'est une redédication peut-être, mais est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Peut-être que vous avez déjà connu Jésus, mais vous avez besoin de redédier votre vie à lui ce matin, pour vivre pour lui, d'arrêter une petite vie égoïste et vivre pour Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Alléluia. Sinon, on va tous prier cette prière. Père Céleste, au nom de Jésus, je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Maître. Je crois de tout mon cœur qu'il est ressuscité et que je suis ton enfant. Mes péchés sont pardonnés. Je suis une nouvelle créature en Jésus-Christ. Et merci Seigneur que je suis doué pour le succès. Tu m'as donné un don. Je suis le gérant de ce don. Et je prends une décision de le mettre au service des autres pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut juste peut-être chanter un chant de consécration et on va faire ce chant une fois.